Alors, bienvenue au balado épicier au détail près, présenté par Détaillant Alimentaire. Un balado en trois parties. Donc, vous pourrez écouter, si c'est la première partie que vous écoutez, on a déjà deux autres parties où on a fait un peu le tour d'un portrait d'un dépanneur innovant qui était Libre Dépanneur. On a parlé aussi avec Charles du McGill et du Centre Ben Sadoum de recherche. Mais pour ce troisième-là, je rejoins encore Charles de Brabant, qui est le directeur exécutif de Ben Sadoum, l'école de management de détail, ainsi que Olivier Roy, qui est le cofondateur de Leave au niveau de la technologie, au niveau de la technologie intuitive ou pour les commerces de détail alimentaire, qui est derrière le concept de Libre Dépanneur et qui est aussi derrière d'autres concepts. Messieurs, merci d'être là, de votre générosité, de votre temps, pour aider une industrie qui est en plein changement technologique. J'en parlais, j'animais un congrès, puis en un an, la capacité d'accepter la technologie dans leur commerce a complètement évolué. Une technologie qui est présente déjà, que ce soit des Amazon Go ou d'autres styles de commerce comme ça, où la technologie ferait vraiment sa place. Mais est-ce que la technologie, puis le titre c'était « Lorsque praticité rime avec efficacité », est-ce que la technologie... front of the house, devant la, on a dit au niveau de la caisse du commerce, mais aussi en gestion, est-ce que la technologie va permettre que le commerce de détail alimentaire devienne plus performant, mieux organisé et plus agréable pour les clients qui y viennent? Olivier, je te vois hocher la tête, toi tu es dans l'expérience, donc j'aimerais t'ouvrir le bal avec toi, Olivier.
Ben, même si je suis dans l'expérience, je pense que une grande majorité de la technologie qui va venir réellement influencer le consommateur reste à l'arrière du magasin. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui a un impact majeur. Donc, que ce soit utiliser l'intelligence artificielle, la donnée et des jumeaux virtuels pour avoir plus de les produits à l'avant du magasin en permanence, avoir moins de pertes de stock. Donc, en tant que consommateur, j'arrive et les produits que je veux acheter sont là. Il n'y a pas de produits qui me manquent. Ça, c'est déjà un élément énorme. Donc, le fait de ne pas trouver un produit quand on va dans une épicerie ou même dans un magasin de détail, ça, c'est une friction qui est très, très forte pour le consommateur. Ensuite de ça, la possibilité pour un client d'avoir accès à l'information du magasin en ligne. Donc, est-ce que le produit que je cherche, il est disponible dans ce magasin-là? Donc, encore là, on ne voit pas cette technologie-là comme étant un gros « wow », mais c'est rendu primordial aujourd'hui. Je vais faire mon épicerie, je peux voir sur le site de métro avant, est-ce que c'est dans le magasin où je veux aller l'acheter. Pareil pour, je veux aller chez Aldo, ben, je vais savoir quelle taille de souliers dans quel magasin. Donc, tout l'aspect, avoir la visibilité sur les stocks en magasin, que ça soit disponible réellement, donc utiliser l'intelligence artificielle et Digital Twin pour avoir le matériel se rendre au magasin et bien placé dans les rayons. Et par la suite, c'est sûr qu'il y a d'espérance en magasin, donc ne pas avoir de file d'attente. Il y a plusieurs façons de le faire, que ce soit d'une caisse automatique, un machine, un magasin comme le laboratoire d'innovation, Couche-Tard et McGill, ou par exemple de technologie qui permet de scanner les produits. Il y a plusieurs façons de le faire et chaque façon va être bonne pour différents types de commerce. Et ça va être aussi au consommateur, je pense, qui va lui-même choisir ces technologies à un moment donné. Donc, on va avoir plusieurs options, comme déjà on va dans une épicerie ou on va au Couche-Tard, tu as déjà deux façons de l'utiliser, le machine ou le complément sans contact ou la caisse. Le consommateur doit avoir différentes façons de magasiner aujourd'hui.
Charles, j'ai une question pour toi, puis les questions viennent au fur et à mesure que tu parles, Olivier. On sait que le commerce de détail vit des temps difficiles parce qu'il y a le commerce électronique qui a pris une place prépondérante dans les habitudes de consommation des clients. Est-ce que, Charles, tu penses que l'aspect technologique, organisation interne, pourrait donner un avantage ou permettre au commerce de détail traditionnel de peut-être continuer à garder sa place comme un endroit de prédilection pour faire ses achats plutôt que de peser sur un piton sur son ordinateur? Est-ce que ça peut amener une expérience plus tripante qui va faire qu'on décide de continuer à aller au magasin plutôt que de commander en ligne?
Première chose que je voudrais essayer de changer dans la façon dont les gens voient le commerce de détail, c'est de dire qu'on est dans une logique totalement omnicanale et dans une logique totalement unifiée aujourd'hui. Il y a très peu de commerces traditionnels qui n'ont pas leur commerce en ligne. Donc, je pense qu'il faut, dans un consommateur ou une consommatrice réfléchit pas elle réfléchit par rapport à une offre omnicanale maintenant, dans la façon, et puis la COVID n'a fait qu'accélérer ça. La deuxième chose que je voudrais dire par rapport à ça, c'est puis j'en ai un peu parlé durant le premier balado, mais c'est la puissance, la résilience du magasinage physique. Aujourd'hui, on peut très bien parler de la croissance du commerce électronique, mais si on regarde les valorisations des détaillants natifs digitaux, donc qui ont commencé en ligne, ils souffrent. C'est pas eux dont la valorisation est la plus élevée aujourd'hui.
Okay, intéressant.
Donc, il faut vraiment. Il y a plein de choses qui se passent, entre autres le coût d'acquisition des nouveaux clients ou de garder les clients existants en ligne est très cher. Donc, beaucoup de ces détaillants natifs digitaux sont en train de migrer vers du magasinage physique pour complémenter l'offre, pour améliorer la notoriété de leur marque, etc. Donc, moi, je pense que ce qu'il faut quand même savoir, c'est que le magasinage traditionnel, le magasinage physique, s'est montré très résilient durant la COVID. On parle au niveau mondial et le Canada et le Québec est bien en dessous de ça, que le commerce électronique aujourd'hui représente 20% des ventes totales, ce qui veut dire que 80% se passe en magasin et le 20% n'est pas représentatif du Canada et du Québec qui sont en arrière par rapport à d'autres pays. Ayant dit ça, je voudrais pas enlever le côté humain de ce qui se passe dans un magasin tout en sachant que les technologies peuvent aider. On parle de jumelage numérique ou d'avoir des caméras. Je pense tout bêtement, surtout dans des petites surfaces et surtout à fort trafic, l'agencement du magasin, si on peut l'optimiser, là, les technologies le permettent, d'aider à faire un meilleur agencement peut permettre aux clients de vivre une meilleure expérience. Je parle au positionnement des produits, des planogrammes. Tout ça peut être optimisé. Aujourd'hui avec des technologies. Un truc sur lequel Olivier n'a pas parlé, c'est la puissance de la technologie pour personnaliser l'offre, que ce soit les offres promotionnelles ou ailleurs. Bon, là, il va y avoir un peu de marche arrière qui va être fait parce qu'on va enlever la capacité de là, Olivier est bien mieux que moi. Moi, je suis un observateur de l'utilisation technologique. Je ne suis pas quelqu'un qui est plongé dans les technologies. Mais il est clair qu'il y a toute une série de législations qui arrivent en place qui va freiner à la personnalisation. Sauf si on est engagé avec un détaillant et que le détaillant peut utiliser ces informations de manière intelligente. Et un secteur dans lequel les détaillants ont beaucoup d'informations sur leur consommateur ou leur consommatrice, c'est l'alimentaire. Parce qu'on rentre dans des magasins, c'est là où Walmart a un avantage par rapport à Amazon, si on prend les géants, c'est que 50% des ventes de Walmart se passent dans la section alimentaire. Dans la section alimentaire, il faut y aller toutes les semaines. Je n'ai pas besoin d'acheter un livre toutes les semaines. Mais j'ai besoin d'acheter quelque chose à manger toutes les semaines. Et donc ça permet s'il y a un endroit où il y aura énormément de données personnelles et la capacité à faire des offres personnalisées, c'est clairement dans
l'alimentaire. Puis j'aime l'idée. Est-ce que, parce que l'innovation alimentaire fait partie du commerce alimentaire, les produits changent, les produits évoluent. Est-ce que, un peu comme je vais parler des souliers, mais les souliers, on va les essayer en magasin, aussi notre format, notre formule, puis après ça, on peut le commander en ligne. Dans l'alimentation, est-ce qu'il peut y avoir deux poids, deux mesures, c'est-à-dire que tout ce qui est expérience presse passée en magasin, mais le lait qu'on achète régulier va être livré chez nous sur une base régulière parce qu'on n'a pas besoin de prendre de décision d'achat. Est-ce qu'on peut penser qu'on s'en va là vers un commerce qui va devenir un commerce d'innovation plutôt qu'un commerce de service?
Ben, si je peux me permettre sur cette question-là, je pense que ça va être une hybride, comme tu dis. On peut déjà le voir avec les fermes Lufa. Voilà également, sont très forts sur la livraison. Et on voit des technologies aussi émerger du côté du consommateur pour venir faire ce pont-là. On a une belle startup à Montréal qui s'appelle Seven Dish qui permet aux clients sur une application web ou sur une app de créer son menu pour la semaine et de rentrer les produits qu'on a déjà dans son garde-manger. Donc, on parlait de plus durable, le commerce plus durable. Donc, de venir réduire ses pertes. Donc, je sais que ça, on l'a déjà. J'ai mes restes du repas dernier. Je peux l'utiliser pour telle affaire. Et ça va me faire ma liste d'épicerie que je peux aller chercher ou bien la faire livrer. On va voir ce pont-là se faire par la technologie, je pense. Je sais, Charles, continue sur ça.
Ben, je suis très, très loyal à Good Food, donc, qui est une entreprise qui a démarré à Montréal et à Toronto. De mai à préparer. Et c'est clair que ça, c'est, tout est en ligne. Donc, ça aide à diminuer la perte d'aliments. Je pense que, bon, après, est-ce que tout le processus est durable et un peu mis en question, mais ils travaillent très, très fort pour le faire. La deuxième chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est je pense qu'à un moment donné, Samsung, entre autres, parlait de cette notion d'avoir un frigidaire intelligent, ce qui permet de dire que si notre lait arrive à ça, ils ont déjà pré-identifié et permettent de communiquer avec Amazon ou avec Instacart ou avec je ne sais pas qui pour qu'on se fasse livrer notre lait ou les biens qu'on utilise de manière beaucoup plus fréquente. Donc, je pense qu'il y a, bon, on n'y est pas encore. Je pense qu'ils en parlent moins aujourd'hui, mais on peut
est-ce qu'on peut prédire que ça va être le retour du laitier?
laitier virtuel.
Qui va être livré par un tiers, mais on va acheter notre lait du laitier. Parce que ça, on s'en vient là, on fait des micro-achats puis des micro-produits, on n'achète plus. D'après moi, si on se promenait dans les épiceries, on verrait moins des paniers d'épicerie bondés pour voir consommer. On en voit encore, Olivier?
Mais il ne faut pas en fait sous-estimer l'impact que des micro-achats comme ça a. On parle quand même d'énormément de coûts de livraison, mais aussi c'est de l'essence qu'on consomme. Et faire des livraisons, des petites livraisons constantes, ce n'est pas du tout vers ça qu'on devrait aller d'un point de vue écologie puis durabilité.
Et puis c'est même pas pour rentabilité, parce qu'on l'a vu avec Good Food. Ils ont totalement arrêté cette partie-là de leur pour se focaliser sur la rentabilité.
J'ai vu beaucoup de chaînes comme Carrefour en France ouvrir des points de dépôt les quartiers où puis c'est là que des commerces, des micro-commerces comme Lib peut devenir aussi un point de dépôt pour des choses comme ça, des boîtes. Tu sais, maintenant on voit les FedEx de ce monde puis les DHL avoir dans les gares, surtout en France, dans les gares, des boîtes de dépôt et de cueillette pour centraliser ça, pour éviter qu'il y ait des camions qui se promènent partout sur les routes, puis surtout qu'une gare en France, c'est quand même un endroit qui est souvent central et très fréquenté. Donc, c'est que la technologie va faire qu'on va évoluer notre commerce pour le rendre encore plus profitable et efficace. Est-ce que je me trompe en disant ça? Profitabilité, est-ce que vous y croyez?
Ben, je pense que c'est un... Comme l'argent coûte de plus en plus cher pour des gens qui démarrent des entreprises, Olivier vient passer pour savoir que lever des fonds aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué que ce l'était même il y a 2-3 ans quand les taux d'intérêt étaient quasiment à zéro. Il y a vraiment un focus de plus en plus fort sur les entreprises et surtout les startups. Sur qu'ils aillent plus rapidement à la rentabilité. J'utilise l'exemple de Good Food, c'est quand même incroyable. Je pense que en l'espace de 6 mois, ils sont passés d'un modèle d'affaires qui était de maximiser les revenus, maximiser le pourcentage qu'on peut avoir.
Pénétration de marché.
Du frigidaire d'un consommateur ou d'une consommatrice à la rentabilité. Et ils ont coupé énormément de services très, très rapidement pour se focaliser là-dessus.
Je pense que c'est quelque chose qu'on voit très bien dans le milieu de l'épicerie aussi. Beaucoup d'étaillants investissent d'immenses fortunes sur l'automatisation des entrepôts, même l'automatisation des magasins. Et on parle d'immenses investissements aujourd'hui, mais sur la rentabilité, sur le long terme, c'est excellent parce qu'on vient réduire beaucoup nos frais de main-d'œuvre. Déjà qu'il n'y a pas de main-d'œuvre, ça vient simplifier pas mal l'opération de ces centres de dépôt-là qui peuvent maintenant opérer 24 heures sur 24 sans interruption et préparer les commandes autant que de pouvoir les livrer. Désolé, il y a quelqu'un qui rentre dans la pièce. Et pareil pour les magasins, de pouvoir venir automatiser le devant de l'achat, le devant du magasin, donc par le check-out, ça vient réduire énormément les coûts de main-d'œuvre. Et c'est pour ça que les épiceries, on voit autant de self-checkout. Ça coûte cher à installer, mais ta rentabilité sur le long terme est excellente.
Pensez-vous que l'industrie du commerce de détail alimentaire évolue au Québec assez rapidement, où on est encore un peu géré à l'exception, comme je disais, où on a peur de faire des changements, de peur de déplaire aux clients? Olivier, je te vois sourire, mais...
Ouais, je pense que au Québec, en général, on attend que les gros joueurs fassent quelque chose. Même au Canada, on va voir des gros joueurs américains lancer les coups, ou si c'est des gros joueurs canadiens, lancer les coups. Et ensuite de ça, il va y avoir un mouvement de foule qui va être plus ou moins lent. Mais les précurseurs, d'un point de vue technologie en commerce de taille, c'est vraiment l'Europe. Si on regarde ce que Carrefour fait là-bas, même Decathlon, ce sont des génies d'automatisation. Ils investissent beaucoup, mais ils innovent surtout. Okay. Cette innovation-là vient ici en Amérique du Nord quelques années après et va venir impacter nos détaillants ici.
On parle là-bas, par exemple, d'une grande proximité des consommateurs, tandis qu'à Matane, c'est plus compliqué. Mais moi, je pense que les distances n'ont plus le même impact qu'ils l'avaient à cause des communications qui sont beaucoup plus grandes. C'est beaucoup moins isolé. Mais Charles, au niveau de l'université, vous travaillez avec des startups, vous travaillez avec des jeunes qui arrivent. Est-ce que tu vois une effervescence pour que le commerce de détail parte à vitesse grand V pour s'adapter?
Ouais, je vois ce que dit Olivier, mais en même temps, il ne faut pas oublier que Shopify et Lightspeed sont nés au Canada. Donc, j'allais dire au Québec et presque au Québec avec Ottawa. Il y a Heyday dans les chatbots. Donc, je pense qu'on a un écosystème excessivement innovant. Metro est une des manières les plus efficaces opérationnellement parlant. Dollarama est un des dollar businesses les plus performants, sinon le plus performant en Amérique du Nord. Couche-Tard est une... Donc là, on parle des grosses entreprises, mais même au niveau des startups, Heyday, donc Chatbot, est une petite entreprise. Ce que fait Olivier est remarquable. Je veux dire, donc ça, c'est ce côté technologique. Après, il y a des entreprises comme Lufa Farms, des Good Food, même au niveau du Canada, je veux dire, Good Food a conquis l'ensemble du marché canadien. C'est une boîte qui, à la base, est montréalaise, d'une certaine façon. Lufa Farms est une vraie machine de guerre. Donc, en termes d'innovation, donc, je pense qu'il faut faire un tout petit peu attention. Je suis d'accord avec Olivier que l'Europe est probablement plus avancée parce que c'est un espace concurrentiel tellement puissant et avec beaucoup de proximité. Il ne faut pas oublier les Asiatiques. Hein, ce que fait Alibaba avec Hema, par exemple, c'est extraordinaire. C'est quand même... Donc je pense qu'aussi, il faut regarder côté asiatique. Mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer... Je pense qu'on est à deux vitesses au Canada et au Québec. C'est-à-dire qu'on a un écosystème sur le haut de la valeur ajoutée qui est hyper performant. Et je ne parle pas de taille d'entreprise, parce que là, j'ai donné des exemples de petites boîtes comme de grosses boîtes. Et après, il y a le reste où on est peut-être plus en observateur. Donc, pour moi, c'est un peu dommage. Et je pense que très souvent, on n'est pas nécessairement encore assez fiers de nos affaires ou nos business, nos startups, nos joueurs internationaux qui vont à la conquête du monde. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Je pense qu'on est un peu le village gaulois qui n'arrête pas de se défendre plutôt que du village gaulois ou du village québécois qui va à la conquête du monde.
Je trouve ça inspirant, Charles. Puis, tu sais, moi, ce que j'aimerais conclure en disant aux commerçants alimentaires puis aux commerces de détail, c'est sortez, allez voir, tu sais, puis arrêtez de gérer à l'exception en disant « mon client n'est pas prêt à ça » quand le client est probablement beaucoup plus prêt que vous le pensez, mais c'est vous peut-être qui êtes... pas prêt à faire face à ce qui s'en vient. Est-ce que je me trompe en disant ça pour conclure?
Absolument, parfaitement raison. Puis comme dirait en fait, notre premier client, Éric Champagne de La Vie en Rose, CIO de La Vie en Rose, ce qu'il dit constamment, c'est qu'il faut arrêter d'être observateur, il faut piloter, tester. Ça coûte pas très cher faire des petits projets pilotes. On parle pas de déploiement de chaîne en entier. On parle de petits projets. Et on va le voir, ça fonctionne. Puis ça fonctionne pas, on en fait un autre. On en fait un autre. Ça coûte des petits montants et ça permet d'aller vite et de tester. Et à la fin de la journée, c'est ça qu'il faut faire au Canada. On doit tester. Comme Couchetard l'a fait à McGill, c'est un excellent projet d'innovation. C'est un magasin. Puis ils font de l'innovation rapide. Donc, ça fonctionne pas. Parfait. C'est quoi la prochaine étape? Ben, ça fonctionne. Mais on va mettre, on investit là-dedans.
Ça va trop vite pour qu'on fasse comme on a toujours fait.
Oui. Charles. Je suis d'accord avec ça.
Ben, c'est la mentalité de c'est l'agilité, la résilience. Et on parle beaucoup de résilience parce que c'est clair que beaucoup de nos commerçants, beaucoup de nos détaillants, beaucoup des acteurs dans l'écosystème, dont Olivier, par exemple, font preuve d'énormément de résilience, mais aussi Ce qui est super important pour réussir, c'est qu'il faut faire preuve d'agilité. Et l'agilité, c'est une question d'ouverture d'esprit, de changement de mode, de modalité de faire, entre parenthèses, je ne trouvais pas le bon mot, mais vraiment tester, essayer, puis ça ne fonctionne pas.
Il faut arrêter de penser que si on change quelque chose, c'est qu'on ne le change pas pour tout le monde, on le change pour ceux qui sont prêts à s'adapter au changement, mais qu'on garde quand même des repères pour ceux qui veulent rester encore. Mais tranquillement, on va aller les gagner un par un parce qu'ils vont voir l'efficacité. Mais si on arrête de faire des changements parce qu'on pense que quelqu'un ou certaines personnes ne voudront pas embarquer, on ne s'en sortira jamais. Écoutez, encore là, un autre épisode qu'on aurait pu continuer sans fin, mais je pense qu'on a quand même allumé l'industrie à dire qu'il faut être sensibilisé au changement, à la technologie, et le commerce alimentaire de détail en est un endroit où il peut évoluer rapidement parce que ça évolue rapidement partout. Donc, soyons à l'affût des tendances et restez informés. D'ailleurs, c'est un peu le mandat du balado épicier au détail près présenté par Détaillant Alimentaire. Et si je peux me permettre, c'est un des trois épisodes au niveau de la technologie. Fait que je vous invite à écouter les deux autres épisodes. Charles, Olivier, merci infiniment pour votre disponibilité. Puis je vous invite, chers auditeurs, à aller voir les liens qui sont avec le balado sur les différentes sociétés ou les différents organismes de nos participants à ce balado d'aujourd'hui. Merci encore.